Salut! Qui que tu sois et où que tu vives, je te souhaite la bienvenue pour cette deuxième saison du podcast Poule Podcast. Moi c'est Julia et ça me tenait vraiment à cœur de laisser la parole aux personnes issues de la communauté LGBTQI+, pour nous parler de diversité, de réalité et d'enjeux sociaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Chris Lag, qui n'est autre que la réalisatrice du film Parole de King. Ensemble, on a pu discuter de ce que c'est que d'être drag king et de la place de cet art dans la société. Je vous laisse découvrir notre discussion. Bonne écoute! Bonjour Chris.
Bonjour.
Bienvenue dans ce podcast Poule Podcast. Je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui parce que tu n'es rien de moins que la réalisatrice du film Parole de King, dont on va parler aujourd'hui avec l'univers drag king. J'ai posé tout le temps une question à mes invités qui viennent ici, c'est je leur demande comment est-ce qu'ils souhaiteraient se présenter, fait que je vais te la poser aussi.
Je pense que oui, là je suis dans le mood de me présenter comme réalisatrice. Si je dois me genrer pour nous, ça serait Butch. Et drag king à mes heures perdues, mais je crois qu'on en parlera plus tard. C'est pas ce qui me définit, mais c'était pour faire une petite joke. Rapidement, j'ai fait des études de cinéma et okay. Et puis j'ai pas fait de film en fait après.
C'est beau ça.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'étais un peu saoulée des films d'étudiants qui sortent d'école, qui c'est sur, je parle de Paris, hein, donc c'est le café, les amis.
Ouais.
Et j'avais peut-être un ego surdimensionné, mais j'ai dit oh moi j'ai rien à raconter, je veux vivre et puis voilà. Un jour ça s'imposera à moi. Bon ça a pris pas mal d'années et puis j'ai eu la chance de croiser la trajectoire de Louise Deville. Quelque chose comme 2007, je pense. Et puis en 2009, à force de traîner avec elle dans ses performances, je me suis aperçue que la plupart des gens voyaient une belle nana qui se dessape, parce que pour vivre, elle fait du burlesque.
Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut juste présenter vite fait qui c'est Louise Deville un petit peu ?
Louise Deville, c'est une performeuse américaine qui est arrivée en France en 2007 et qui vit en France depuis et qui va y rester. Elle fait essentiellement du new burlesque, c'est son métier. Mais elle a commencé le drag king en 2000 pendant ses études aux États-Unis. Et donc, quand elle est arrivée, très rapidement, elle a mis en place avec les gens, les queers et les lesbiennes qu'elle a rencontrées à Paris, des ateliers drag king. Et c'est comme ça qu'elle a fait plein de bébés king depuis. Et c'est une des choses qui étaient évoquées dans le film. Et donc, moi, je traînais avec cette bande, Wendy Delorme, Émilie Jouvet, Louise Deville et autres. Et quand j'ai vu comment le public lambda percevait le travail de Louise, que c'était une belle fille qui se dessape, et que moi, je voyais bien tout le travail qu'il y avait derrière, tout le message politique qui est construit dans certains numéros. Bien sûr, elle fait aussi du joli et du... parce que... il y a des endroits où on vous achète parce que c'est joli ou que c'est technique ou que c'est etc. Donc c'est une partie de son travail qui est alimentaire. Mais après, il y a toute une partie qui est politique. Et je me suis dit, je vais faire des images, puisque je sais faire des images, pour essayer d'un petit peu apporter ma brique à son édifice. Et à force de faire des images, ça a fini par faire un film qui est sorti en 2011 et qui s'appelle Louise Deville, portrait d'une bad girl. Et je détaille d'autant parce qu'en fait, c'est la genèse de Parole de King. Et c'est vraiment constitutif de ce que je suis aujourd'hui parce que on peut se dire autrice quand on écrit des livres qui sont publiés et lus, parce que tu peux les écrire, les laisser dans ta table de nuit, tu seras jamais une autrice.
Tout à fait.
C'est peut-être faux, mais en tout cas,
je vois
la société, tu vois. Et moi, réalisatrice, je ne l'étais pas plus tant que j'avais pas. Et puis mon film a reçu un très bon accueil. Il a tourné dans une quarantaine de festivals. Et dans les actes fondateurs, il y a aussi le Festival international du film de femmes de Créteil qui a sélectionné le film et qui a été dithyrambique sur mon travail, sur ma façon, sur la distance, sur l'écriture, sur toutes les choses qui étaient quasi inconscientes dans ma façon de travailler, que je n'ai pas formalisé. Et je me suis dit, ok, ça a pris des mois, mais j'ai dit, je suis réalisatrice, c'est parti.
Ça y est.
Parce que pour moi, c'est de la réalisation, c'était de la fiction, je voulais faire de la fiction. Et en fait, ce film s'est imposé à moi. Et quand j'ai eu fini, j'ai dit « Oh mince, j'ai pas pu traiter l'aspect drag king de son travail, donc je vais continuer à suivre. » J'ai continué à filmer, un petit peu un prétexte aussi. Et de fil en aiguille, au lieu de faire un court-métrage de 10 minutes sur le travail de King, qui aurait été un complément du précédent,
du premier film, ouais.
J'ai rencontré d'autres King, et voilà comment on arrive aujourd'hui à Parole de King avec 21 King dedans.
C'est ça, c'est quand même impressionnant, parce que non seulement tu fais un film qui est un documentaire, un milieu dans lequel finalement tu disais que tu n'étais pas forcément à l'aise, tu voulais faire de la fiction au départ, puis en plus tu mets 21 King là-dedans, je trouve ça incroyable. Par curiosité, hier, sur Google, j'ai tapé Drag King, avec aucune description après ou quoi. Et bien, dans les 10 premières images, il y a Louis Deville, qui est le King de Louise Deville, qui apparaît. Fait qu'elle est quand même hyper référencée sur Google.
Alors que tu es au Canada. Donc,
ouais,
c'est avec
ça,
des tags et des ouais. choses historiques du Canada.
Exactement. Fait que non, c'était quand même impressionnant à voir. Juste comme ça, là.
Bah, écoute, je crois qu'elle sera très contente d'apprendre ça.
Fait que sur un côté un peu plus technique, finalement, tu ne l'avais pas écrit nécessairement ton documentaire. Tu les filmais comme ça, les Kings puis...
En fait, ma technique de travail est venue avec Louise Deville, Portrait d'une Bad Girl, parce que comme je t'ai dit, je n'avais pas fait de film depuis des années.
Okay.
Et j'avais nos budgets, hein, parce que c'était juste, j'ai comme ça une impulsion, et je prends la caméra et je filme. Donc je ne suis pas cadreuse à la base, hein, je suis réalisatrice. Et filmer des performances burlesques dans des cafés, dans des cabarets, dans des choses qui sont plus ou moins pas éclairées, il n'y a pas de scène, tu es au milieu du public, avec ces gens devant toi, derrière. Bon, c'est des conditions de tournage qui, même pour des professionnels, sont très compliquées. Mais pour moi, qui revenais à la caméra, ça a été compliqué. Donc, je filme pendant des mois, je vais en montage avec ma monteuse une semaine, on jette la totalité et je recommence et je recommence. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé sur Parole de King. Parce qu'au départ, j'hésitais aussi. En France, on a un truc très... Il faut des experts, il faut une parole, c'est de sachant. Et je me disais, bon, pour... Parce que ça assoit aussi, hein, tu vois. Ça donne, c'est dommage, mais ça donne de la valeur à certaines paroles. Et je me dis, pour pouvoir les... Et donc, j'avais peut-être des envies d'experts. Et puis voilà, au fil du temps, voilà, j'ai filmé, j'ai monté. Et cette forme-là, avec 21 personnages, s'est imposée. C'est aussi les joies de l'autoproduction, parce que personne n'était là pour me dire bah non, c'est pas possible.
Ça ne se fera pas.
Pas comme ça. Bon, il y a quand même 4 personnages principaux, hein, y a quand même un récit qui se déroule. Et en vrai, c'est un peu un film choral au sens où s'il y a du message, en tout cas, le contenu se répartit entre les différentes personnes. Mais après, ça a été la réaction du public ici aussi et comme ailleurs. On voit bien qu'il y a des trajets de vie très différents, de pourquoi on arrive au King, comment on en fait et qu'est-ce que ça a comme conséquence dans sa vie. Et c'est ça qui m'a amené à avoir autant de gens, c'est qu'au fur et à mesure que je parlais avec des Kings, c'était pas du tout la même histoire. C'est la même pratique, mais rien. Pas pour moi, pas de lien entre les histoires. Hein. Quand on voit Louise, elle fait des études, elle vient pour être diplomate à Paris, finalement elle décide d'être prof d'anglais en attendant de se faire un nom et elle fait performance burlesque. C'est pas la trajectoire de la personne qui fait du paysagisme, qui n'a jamais fait de scène de sa vie et qui décide de faire du King et qui finit sur scène alors qu'elle n'avait pas décidé. Enfin, c'était pas
prévu.
Non, elle n'a pas fait un atelier pour faire de la performance.
Non, c'est ça.
Et puis finalement, je pourrais détailler encore plein de trajectoires, mais... Et puis c'était ça aussi de comment j'ai... Quand tu dis je ne l'ai pas écrit, c'était ça. C'est au petit à petit aussi, c'est de composer une image avec des gens très différents, d'âges différents, d'origines différentes, de genres différents, et d'aspirations différentes. Donc des gens qui n'iront jamais sur scène Et puis il y avait cette question aussi de... Je voulais des gens qui avaient quand même un petit peu de pratique.
Okay.
Parce qu'il y a des choses qui peuvent être très intéressantes, c'est de prendre quelqu'un avant un atelier drag king, d'être dans l'atelier et de voir
après qu'est-ce
qui se passe. Et ça c'est un sujet qui n'a pas été traité, en France en tout cas, et qui m'intéresse. Mais pareil, j'avais un territoire vierge de tout film, donc j'avais tellement de sujets que je pouvais traiter sur l'angle du drag king. Donc voilà, j'ai suivi mes personnages, je suis raide amoureuse à chaque fois que je les revois. C'est un tel plaisir. Et moi, je redécouvre vraiment le film naïvement, comme si je ne l'avais jamais vu. Donc je redécouvre la saveur des scènes. Et les choses que je n'ai pas écrites, c'est aussi les petites scénettes de fiction qui y a dedans.
Ok.
Parce que moi, c'est un documentaire, j'étais un peu intégriste. C'était bon. Peut-être reprise après le troisième ou quatrième film après ma reprise, on va dire, après l'interruption. Et moi, je dis, je fais un docu, hein, on met pas de scène de fiction. On a déjà beaucoup de spectacles, je vais pas mettre de la fiction. Et puis Louise, elle était là, ah, mais je veux faire des scénettes, machin, à tel endroit, etc. Et puis bon, j'ai fini par dire oui, après des mois d'avoir dit non. Et puis, pour l'anecdote... je dis, ok, c'est des fictions. On a repéré les lieux ensemble, donc ça, je savais exactement où on allait tourner. Okay. On avait trouvé un café d'amis qui était juste à côté de la zone. Donc, c'est ce qu'on voit. Il y a des très jolies scènes qui sont tournées de tous les kings qui se préparent pour ces petites scénettes-là. Mm-hmm. Donc, ça, c'était un beau moment, vraiment un beau moment. C'était au mois de mai, il faisait beau. Enfin, franchement, on a tout eu de la chance dans tout. Mais par contre, j'avais dit, ok, c'est des performances. Moi, je viens, je capte des performances. C'est et ça. Toi, tu te débrouilles. Tu organises et tu fais les... Oui, oui, oui. Donc, Luke King se maquille. Et puis après, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Chris?
Ah non, on n'avait pas dit ça.
C'est ça. Ok. Donc, aucun découpage, aucun scénario. On savait juste que dans les scénettes, on était dans la laverie, on était au bord du canal, on était la pétanque. Donc, voilà, il y avait... Mais j'ai pas fait de découpage, etc. Alors, quand j'arrive en montage, je dis à ma monteuse, ben, on a filmé. Mais il y a un découpage.
Non, bon courage.
Aucune idée si ça allait fonctionner. Bon, bah, ça fonctionne, hein, parce qu'il se trouve que là, je n'ai pas fait les images toute seule. J'avais une cadreuse aussi qu'on voit un petit peu à la fin dans des images de Making of, je crois. Oui, on les voit dans les génériques. Donc, il y a une super cadreuse qui m'a rejoint, heureusement, en vrai. Quand le film a vraiment commencé à se formuler avec autant de personnages, j'ai appelé au secours la menteuse en disant « Viens filmer, s'il te plaît, je vais tout rater, il faut que tu viennes. » Elle me dit « Mais non, mais je ne suis pas cadreuse, je vais voir avec une réale. » Et en fait, il y a une réale avec qui elle montait tous les films depuis des années qui m'a rejointe. Et heureusement, et on voit l'atelier, le plus gros atelier qu'on voit. Enfin, il y en a plusieurs, c'est dur à différencier pour les gens qui ne connaissent pas. Mais en tout cas, il y a la scène d'ouverture, ça c'est facile à identifier, cette grande descente d'escalier en noir et blanc.
Oui, oui.
Voilà, c'est à la machine du Moulin Rouge à Paris. Et c'était pendant la Wait For Me. C'est une grande soirée lesbienne avec de 1500 à 2000 lesbiennes qui est récurrente à Paris, qui est organisée par le collectif Barbiturix. Et donc Rag, qui a fait la direction artistique et la programmation de cette soirée, avait fait une édition King, spécial King.
D'accord.
Et donc avait invité Louise à faire un atelier, à ce qu'après l'atelier, les Kings défilent sur scène. Et c'est pour ça qu'on les voit dans la soirée. Donc, toutes ces images de King dans la soirée et de l'atelier et de l'escalier, c'est ce jour-là. Et j'ai heureusement la cadreuse qui m'a rejoint ce jour-là et qui a fait ces images absolument sublimes.
C'est ça, parce que c'est pour expliquer un peu, c'est une scène où on voit les Kings descendre les marches un à un. Fait qu'on les découvre tous au début du film, comme ça, c'est super beau. Là.
Ouais, et il y a beaucoup de chance dans ce casting parce qu'en fait, bon, la plupart des Kings ne sont pas dans le film. Hein. C'est vraiment un atelier lambda où elles se sont inscrites. Et donc, c'est vraiment un peu l'inverse du contenu du film. C'est-à-dire que là, il y a pas mal de bébés Kings ou de... Mais il se trouve qu'on est en octobre 2013. Et que plus tard, certains de ces personnages rentrent dans le film.
Ça arrive après.
Et là, je me dis, mais en fait, j'avais des images ce jour-là. Et donc, comme Livio Belluccio, par exemple, qui dit, je suis allée travailler mon personnage de dresseur de puces à l'atelier. Mm-hmm. J'ai les images de l'atelier.
C'est ça.
Et c'était un petit peu un coup de chance. Et d'avoir deux ou trois personnages qui avaient décidé de venir. C'est pas moi qui leur ai dit de venir, comme Augustin Debord... qui est là aussi, comme Livio Belluccio, qui est là aussi. Livio, j'ai déjà dit. Il y en a un autre personnage. Donc, c'était aussi un plaisir pour moi d'avoir sur le plan plusieurs Kings et qui ont des moments de vie et d'interaction. Parce qu'après, sinon, on les a soit en interview posée fixe, soit en performance pour ceux qui performent.
Ouais.
Mais, et certains, je n'ai pas pu les filmer en performance. Donc, ça, c'était les petites magies de... qui ont fait que j'avais des images et quoi, c'est vraiment sorti de ma mémoire en me disant mais mince. Et c'était très longtemps après, hein, c'était...
Ok, c'est ça, parce que t'as tourné ton film sur plusieurs mois, plusieurs années?
Plusieurs années au final, hein, parce qu'il y a des images de Louise qui doivent remonter à peut-être fin 2012, mais 2013 essentiellement, c'est vraiment des images anecdotiques. Mais voilà, pour moi le virage c'est vraiment cette soirée-là, octobre 2013, où justement je rentre une cadreuse avec moi Et du coup, les tournages commencent à s'organiser. Pour les interviews, je voulais vraiment un cadre propre, qui me les mette en valeur avec une belle image. Et j'ai trouvé un collectif La Main qui squattait un ancien bain public à Paris et qui nous a hébergés gratuitement 2 jours pour, même 3, pour faire les interviews. Il faut avoir le photoshoot aussi qu'on voit pour l'affiche. Il y a une dizaine de kings qui se rassemblent autour de Gilles Raman pour faire l'affiche. Et tout ça, c'était possible grâce à ce collectif. Donc voilà, il y a eu un réseau aussi d'artistes, de solidarité et d'entraide qui a fait qu'on n'a pas eu à payer un studio pour les interviews. Et on avait moi, j'aime bien la forme des interviews. Le petit mur en briques là, qu'ils nous ont trouvé, parce que c'était ils font des décors de théâtre, ils font des installations. Donc, ils nous ont trouvé un fond de mur qui était... Voilà.
Ça rend donc,
voilà, c'est un ensemble de vraiment de bonne énergie. Et j'ai fait deux crowdfunding aussi sur KissKissBankBank pour le co-financer. Donc, j'ai financé une grande partie de ma propre poche. Mais j'ai aussi du soutien du public.
D'accord, mais je trouve ça hyper intéressant ce que tu racontes. Parce que, tu sais, on a l'habitude en France notamment d'avoir des films faits dans un cadre hyper défini, avec des producteurs, etc. Puis toi, tu me dis, moi, je suis allée voir des potes, on a fait ça à côté. J'ai fait un KissKissBankBank, je me suis autofinancée. C'est génial, je veux dire. Non seulement tu mets en scène des kings, des drag kings, qu'on voit pas dans le cinéma français. Puis en plus de ça, tu le fais d'une façon qui est comme... Hors habitude, tu sais, qui n'est pas habituel.
Ouais. Et pour un résultat qui est apprécié des professionnels. Donc, ça, c'était pas anticipé non plus, parce que Louise Deville, je suis encore en format 4 tiers, parce que à chaque changement de format, je fais de la résistance. Tu vois, quand on me disait le Super 8, c'est fini, bah, j'ai traîné la patte encore une ou deux. Là, on m'a dit, il faut faire du 16/9e. Et j'ai dit, bon, non, je vais le faire en 4 tiers. Bon, maintenant, je regrette. J'aurais pu le faire en 7/9e. Donc, j'ai fait Louise Deville en 4 tiers. Donc, c'est bien daté, du coup. Et bah, celui-là, bon, je l'ai fait en 16/9e HD quand même. Mais sur cassette.
Sur cassette.
J'ai résisté encore.
Ok.
Non, j'aime bien traîner sur les vieux formats. Et la cassette, en fait, il y a un rendu cinéma que... Pellicule, en fait.
Ouais.
Je trouve qu'on avait... Bon, maintenant, elle a vraiment la sophistication des capteurs numériques. Je vais pas faire ma difficile. On arrive à avoir des rendus cinéma, hein. Mais à l'époque, franchement, les rendus numériques, c'était compliqué encore, hein. Donc à la cassette, quasiment tout à la cassette.
C'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a comme une ambiance assez particulière dans ton film, tu sais, c'est ça, on voit que c'est pas filmé avec une caméra hyper sophistiquée, dernier cri, et puis ça nous amène dans une intimité quand même assez cool. Fait que 21 drag kings, c'est ça. Est-ce qu'on peut juste faire une petite définition de ce que c'est que le drag king pour nos auditeurs et auditrices?
Oui.
Rapidement, parce que c'est compliqué. Mais...
Oui. Bah, pour moi, c'est quelqu'un qui décide de s'approprier les codes et accessoires du masculin et de les performer. Sans prendre en compte le genre biologique de la personne ou même le genre social. Et pour moi, c'est du jeu. C'est vraiment... et c'est ce que je dis. Pour ça, c'est quand même l'affiliation avec la drag queen fonctionne. Parce que quand on voit une drag queen, même si son personnage est ultra féminin, on sait bien que c'est pas une femme. Et il n'y a aucun moment où il essaye d'être une femme.
Non, c'est vraiment s'approprier les codes du féminisme.
C'est ça. Donc, c'est des créatures. Au départ, elles étaient plutôt féminines. Mais on voit bien maintenant qu'on a des drag queers, qu'on a des, des perroquets, on a des, des drag queens en France qui sont vraiment sur des choses de créatures qui n'ont mais strictement rien à voir avec une femme. Et voilà, pour moi, c'est un contrat de jeu. Je m'amuse avec mon apparence. Et voilà, je te questionne, je te divertis, je t'agresse parfois, parce qu'il y a des drag queens très très des personnages très punk, très sales, très agressifs, très grossiers, enfin voilà.
Ah oui.
Voilà, dans les drag queens, avec la diversité, la culture, les années, les transmissions et les médias, ils ont pu s'autoriser encore plus de choses que ce que font encore les drag queens. Mais voilà, pour moi, c'est ça, c'est jouer avec les codes du masculin. Donc ce qu'on voit dans le film, c'est que si on passe par une pratique collective qui est plutôt développée dans la communauté lesbienne, qui est l'atelier drag king, Là, on est plus dans une pratique carrément intime, puisque ça se joue dans le corps et la transmission se fait par le corps au lieu de se faire uniquement par la parole. Parce que bon, dans l'atelier, d'accord, il y a les échanges verbaux qui sont aussi importants que la pratique. Mais c'est vrai que de se mettre à occuper l'espace comme un homme pendant quelques heures, s'asseoir comme eux, enfin au sens caricatural, hein, parce que tout de suite on me dit mais tous les hommes sont pas comme ça. Oui, je sais, mais ils ont tous été élevés comme ça. Et après,
ça différencie,
il y en a qui ont pris d'autres chemins ou qui ont une autre personnalité ou qui ont totalement déconscientisé, construit et qui se sont forcés à être autrement. Mais en tout cas, voilà, l'homme est élevé dans nos sociétés occidentales en lui disant tout appartient. Le sol qui a sous tes pieds t'appartient. L'objet que tu attrapes, et c'est ce qu'on voit, une scène qui fait beaucoup rire, tu attrapes une bière, la bière t'appartient, tu dois monter ton appartenance, c'est à toi. Et effectivement, le corps de la femme, en termes de mouvement, est beaucoup plus délié, utilise plus d'espace et plus d'articulation, et prend plus de place. Et donc c'est ça, c'est de se contraindre à être dans ce corps contraint, masculin, qui est très peu mobile.
Ben oui, mais en plus, après avoir vu ton film, je t'avoue qu'en étant sortie de la salle, on s'amusait à essayer de marcher comme des gars, entre guillemets, là, avec en écartant un peu plus les jambes et tout. Puis c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais c'est des gestuelles différentes, puis ça fait toute une différence dans le jeu, puis la performance, comme tu dis. Puis je voulais revenir sur le fait, tu disais, donc 21 drag kings dans ton film, qui viennent de milieux différents, parce que, et qui ont aussi une diversité de genres différents, parce qu'on voit une personne transgenre dans ton film. Et je trouve ça hyper intéressant, parce que tu vas chercher vraiment, tu sais, une diversité de personnes aussi dans ton film. C'est ça, tu sais, y a comme des personnes qui sont des mamans, il y a des jeunes, tous les âges, on trouve. Quels ont été les retours des personnes, justement, qui ont des kings qui ont été dans ton film après, tu sais?
Globalement, c'était la joie de participer à cette sororité, tu vois, à cette fraternité. Parce que là, c'est les deux qui sont ambivalents. Parce que quand on est en king entre soi, c'est un peu, on est des potes, on roule des mécaniques, on parle au masculin, on se fait des checks et c'est très drôle de se faire un truc entre potes. Et donc, il y avait ce truc entre potes et puis, bon, on n'était pas amis. Enfin, tu vois, les 21 personnes ne sont pas amies. Hein. Elles se connaissent de près ou de loin ou de réputation, mais c'est pas des amis. Moi, la plupart, effectivement, et certains sont devenus des amis proches, mais je ne les connaissais pas avant le film. Donc, c'est aussi ça l'aventure du film. Je pense qu'il y a du plaisir, une fierté, parce que la forme était voilà, je ne savais pas où j'allais. Hein. Franchement, je fais des images et... pour avoir cette œuvre finie telle qu'elle est, parfois je sais pas trop. Il y a eu beaucoup de magie sur ce film. Il y a eu beaucoup, et comme j'ai dit, il y a eu tellement d'énergie positive autour que finalement ça a accouché de cette œuvre qui est quand même collective, parce que c'était impossible de faire seul. Et j'avoue là que j'ai pas d'autres
c'est bien parfait
retours spécifiques qui me viennent.
Non, mais c'était pour savoir, tu sais, parce que des fois quand tu vis une expérience comme ça, justement, tu sais, quand tu t'es maman le matin puis l'après-midi tu tournes un film avec Chris Lang de Drag King, tu sais, ça peut amener à des expériences et des émotions particulières là, mais c'était pour savoir, c'était une petite question. Puis fait que c'est ça, aujourd'hui, tiens, en 2022, la planète connaît l'émission RuPaul's Drag Race sur Netflix. Fait que tu sais, donnons-lui ce qu'il mérite, c'est qu'il a quand même réussi à démocratiser internationalement les drag queens. Maintenant, tout le monde sait à peu près qu'est-ce que c'est. Mais les drag kings, c'est beaucoup moins connu. Puis l'univers des drag kings en France est complètement différent de celui des drag kings aux États-Unis. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu?
Oui, c'était aussi un de mes moteurs quand j'ai... Parce que le film n'est pas écrit, mais j'ai quand même réfléchi aux pistes qui existaient, qui je voulais rencontrer, comment je voulais explorer. Et c'est vrai que la tentation de faire un film au moins européen, avec des kings italiens, je sais qu'il y a... J'ai peu de contacts, mais j'avais des bruits où il y avait des choses qui se passaient en Italie. En Angleterre, bien sûr, il y en a qui sont très médiatisés, comme Adam Hall ou aux Pays-Bas aussi. Donc, il y avait un territoire en tout cas européen que j'aurais pu mettre dans le film. Et en fait, c'est cette prédominance américaine et anglo-saxonne sur Internet. Bon, là, t'es allé à l'encontre de ce que je disais. Bah, si tu cherches Draking, tu trouves Luce de Ville.
Ouais, bah,
mais je pense que parce que tu as tes tags francophones aussi.
Oui,
dans
oui,
ton,
ouais,
voilà.
Ouais.
Et donc, ça t'a fait sortir ça. Parce que si moi, je cherche Draking, si je vais sur YouTube, je vais avoir des kings américains.
Okay.
Et donc, pour moi, l'imagerie dominante, elle était sur des Draking américains. Parce qu'ils sont plus nombreux, ils sont là depuis plus longtemps. Même si je n'ai pas de nom en tête. Mais voilà, pour moi, c'était... les États-Unis sont toujours massivement en avance, plus visibles, et la culture anglo-saxonne se diffuse plus avec l'anglais plus largement dans le monde. J'ai oublié l'Australie, hein, bien sûr, dans les Kings. Donc c'était une volonté vraiment de... Et c'est peut-être une des faiblesses en termes d'écriture ou d'intérêt pour certains médias, de faire du franco-français.
Oui.
Il n'y a que des Kings français. Alors, j'ai bien fait attention qu'il n'y ait pas que des Kings parisiens, parce que c'est aussi la limite, c'était facile. C'était beaucoup plus facile de prendre que des kings à Paris, et puis c'est moins cher, et puis et donc j'ai pris des kings, pas que des kings qui étaient à Paris, mais ouais, c'était la volonté de... Et puis à nouveau, on est quelques années après maintenant, puisque le premier tournage, on est à 8 ans et demi du premier tournage. Ça fait une photographie à un instant T de la scène Draking,
oui, tout à fait,
un peu à Paris et enfin surtout à Paris et un peu en France, et comme j'ai pu le dire dans la présentation publique que j'ai fait à Cinédance à Rouen il y a quelques jours, à l'époque où je fais ce film, je connais tous les kings de France. Aujourd'hui, en mars 2022, j'en serais bien incapable.
Non, c'est ça.
Et fort heureusement, il y a plein de bébés kings, plein de dynamiques, plein de groupes de kings dans différentes villes de France. Il y a un site web Draking France qui s'est créé pour justement pouvoir faire des fiches artistes et permettre de faire connaître. Donc, il y a des belles dynamiques qui se passent en dehors de tous les gens qu'on voit dans le film. Qui démarre, et il continue à avoir des ateliers vraiment... Bon, là, la pandémie a un peu stoppé la dynamique, mais bon, ça, c'est lié, c'est pour tout le monde. Mais oui, ça explose totalement le King en France. Et là, je vois qu'il se passe, par exemple, à Marseille, j'ai vu une soirée drague qui se crée, y a deux Kings dedans.
D'accord, fait que ça démocratise vraiment partout.
Voilà.
Quoi, ouais.
Donc les queens et les kings, et parce qu'il faut, que les queens soient aussi partie prenante, c'est-à-dire tous les endroits où des queens soutiennent des kings, du coup on a des kings sur scène, parce que c'est plutôt les queens qui vont être bookées par les lieux mainstream,
c'est ça, ouais.
Ou par les lieux LGBT, y compris par les festivals LGBT qui soit n'ont pas de connaissances, soit n'ont... Oui, c'est ça.
C'est vrai.
Ne connaissent pas d'artistes ou n'y pensent pas. Et donc, les queens peuvent vraiment nous aider. Et c'est vrai que l'exposition massive, nous, on a un Drag Race France qui arrive.
Oui, c'est ça.
Le jury vient d'être annoncé la semaine dernière, là, donc on est en mars 2022. Nous n'avions pas de Drag Race jusqu'à présent.
C'est vrai.
Et c'est produit par un gros faiseur, puisque c'est produit par Andemol, qui fait notamment The Voice.
Ouais, c'est ça.
Donc, on... C'est un petit peu, on va voir, c'est un peu stressant quand même qu'un grand faiseur mainstream comme ça hérite de ce format. Mais bon, c'est des gros faiseurs, ils savent faire des émissions. Donc maintenant, il va falloir voir le casting. Mais c'est vrai que tu parlais de RuPaul pour y revenir. Dès qu'il lance une nouvelle saison ou une nouvelle édition, il se prend des scuds de toute la communauté mondiale parce qu'il refuse les femmes trans et il refuse les kings. Sauf que j'ai vu passer un post du magazine Out, je crois, qui a référencé 14 queens qui ont fait leur coming out trans pendant les Drag Race. Donc à l'issue de son Drag Race, il se retrouve avec des femmes trans de temps en temps.
Oh oui.
Mais malheureusement, c'est pas une excuse du tout, parce qu'on me dit toujours c'est de l'ancienne école, machin, etc. Oui, mais bon.
Non, ce n'est pas une excuse pour autant.
C'est pas une excuse, mais ça explique quand même son cheminement et sa construction. Il faut pas oublier que c'est une drag queen noire qui s'est imposée dans la pop culture au début des années 90. Donc,
non, c'est ça.
Et pour avoir l'empire qu'il a maintenant, il a ramé. Hein, donc,
Ah oui, non, c'est une histoire assez difficile aussi pour ça. Lui au départ.
C'est de la construction à la force et à la sueur de son front. Et il ne le faisait pas pour l'empire qu'on a aujourd'hui. C'était inimaginable qu'il se passe actuellement. Donc, je pense qu'il y a, il y a du bon à prendre pour toutes les queens du monde entier. Mais j'avoue que j'ai même jamais regardé. Moi, quand les drag queens bitch dans une soirée où je suis, j'ai du contexte, je peux trouver ça drôle et m'amuser. Ou j'ai des amis qui bitch à fond, mais je sais très bien qu'il n'y a strictement aucune méchanceté. Et puis en général,
C'est du jeu, ouais.
Voilà. Mm-hmm. Et la cible, c'est quelqu'un qu'on connaît, il entend ce qu'on dit, etc. Et là, quand j'ai essayé de regarder la moindre épisode et que ça bitch... dans le dos comme les téléréalités hein, en fait.
Ah oui, parce que ça reste une émission de téléréalité sur Netflix.
Voilà, où
oui.
Je bitch dans le dos. Mm-hmm. Moi, ça m'arrache le cœur en fait. J'arrive pas à... parce que je sais que c'est un format qui est fait pour le public mainstream. Donc voilà. Non, pour moi, c'est à double tranchant de d'aimer les queens parce qu'elles bitch. Bah moi, je les adore pour ça aussi. Mais il faut du talent pour bitcher sans blesser les gens.
Ouais.
Et comme je dis, quand on a le cadre de référence, qu'on sait qui on va chercher et que la personne est totalement armée pour le recevoir et avoir de la répartie, c'est pas la même chose que,
non, c'est ça.
Que d'éclater des candidates parce qu'on a décidé qu'il fallait éliminer, quoi.
Non, c'est ça, c'est pas pareil parce que ben justement, dans ce podcast, pour le podcast, il y a quelques épisodes de ça, j'avais accueilli des drag queens. Puis c'est ça, elles se bitchent un petit peu justement dans l'émission, puis c'est drôle, mais c'est ça, elles se connaissent, puis elles faisaient partie un petit peu de la même famille de drag, fait que... En tout cas, mais c'était pour dire que, c'était pour introduire le fait que c'était pas la même chose aux États-Unis puis en France, le milieu des drag kings et des drag queens.
Ouais, tout à fait.
C'est ça.
Et dans les choses, effectivement, qui sont en train de changer, c'est que quand moi je vois passer des flyers ou des affiches, que ce soit Canada, États-Unis... Un petit peu Angleterre maintenant, bah souvent tu as 2, 3, 4 queens et puis tu as au moins un king okay, dans la soirée. Au moins un, même des fois beaucoup plus maintenant. Mm-hmm. Et puis avec, c'est London Cider qui a remporté Dragula, je crois.
Peut-être.
C'est London Cider, c'est ça. Mm-hmm. Donc il y a un king qui a remporté un concours de drag Dragula. Il me semblait que c'est London Cider. Et voilà, et donc... C'est aussi des kings comme ça qui ont atteint un niveau de professionnalisme qui peut concurrencer les drag queens. Ouais. Parce que souvent, je dis, c'est une question d'argent aussi.
Bah oui, ça coûte cher.
Ça coûte cher. Oui. Voilà. Le drag, ça coûte cher. Mm-hmm. Qu'on soit queen ou king, ça coûte cher. On a un tout petit peu plus de chance. King, c'est un petit peu moins cher. Enfin, ça dépend du genre de personnage que tu sors. Mais vrai, si tu veux concurrencer les drag queens en termes professionnels, hein, c'est-à-dire en termes de performance, etc., bah, il faut des moyens. Et des moyens qu'ont encore moins les kings, parce que bah, globalement, c'est beaucoup de femmes. Mm-hmm. Donc, on est revenus, on le sait, inférieurs.
Oui, bah oui.
Et il n'y a pas d'espace scénique. Ou s'il y a de l'espace scénique, ce n'est pas payé. Donc,
Ok, c'est même pas payé encore, ou très peu.
Bah, très peu.
Ok.
Parce que les endroits qui programment beaucoup de kings ou queens à Paris, et de kings en tout cas, c'est au chapeau ou c'est... C'est un partage de recettes, mais c'est pas, on parle pas du tout de salaire, hein, on est loin, loin. Et les sommes, on n'est même pas loin d'un salaire. Donc c'est un peu le chat qui se mord la queue, parce qu'on peut pas, on peut difficilement avoir des kings aussi matures et aussi qui aient des techniques et qui aient autant d'expérience que des queens qui explosent tout. Parce qu'il n'y a pas d'endroit pour s'essayer.
Et on se rend souvent pas compte que tu sois drag king ou drag queen, comme tu dis, ça coûte cher. Mais c'est aussi que aujourd'hui, il y a des sites spécialisés pour les drag queens, chose qu'il n'y a pas encore vraiment, que c'est pas assez présent pour les drag kings, fait que c'est encore plus difficile d'avoir accès à certaines choses spécialisées.
Oui, mais heureusement, on est dans une autre époque. Je pense même il y a 5 ans, tu vois, c'était encore difficile. Maintenant, même les binders, c'est vrai que l'éclosion aussi et l'organisation et la structuration d'entreprises tenues par des trans et qui se mettent à développer du matériel adapté pour les transitions, etc. Bah, ça donne des outils aux trans, au drag king, pardon, que ce soit le packing, le bender. On a quand même un choix.
Oui, c'est ça, ça arrive un peu plus.
Oui, et mainstream. Et à Paris, on a eu la chance, par exemple, d'avoir Dollhouse, qui était une petite... une petite boutique de sextoy et de lingerie. C'était tenu par un couple lesbien militant. Et donc, elles avaient rentré tout ce qu'il fallait pour les trans, les packing, okay. Les benders. Ça, donc, voilà, il y a des petites initiatives. Et on peut y accéder en ligne dans toute la France. Donc, même en France, on arrive à trouver...
C'est ça, ça arrive un petit peu...
Ça arrive, oui. Sinon, c'est effectivement, ça vient de la Chine ou d'Allemagne ou des États-Unis. Mais bon, la puissance d'Internet et des réseaux sociaux, c'est quand même un outil magique pour le king, parce que même si on est perdu au fin fond dans n'importe quel pays, dans une petite ville où on n'a aucune référence, personne où on peut sortir, aucune queen, aucun king, on a Internet et on peut essayer de se construire techniquement, pratiquement. Bon, après, il faut voyager pour faire vivre son king si on veut le faire vivre. Mais y en a plein qui ont appris seuls en ligne, en fait.
C'est ça, en regardant des tutos YouTube. Puis, oui. J'ai fait ça hier soir. j'en profite pour te poser une question, puisque tu m'as dit que tu faisais du king aussi.
Oui, donc un peu comme tu l'as introduit tout à l'heure, le king s'était un peu éloigné de moi, en fait. C'était une forme d'inconscience, même si j'étais pas si jeune, mais d'inconscience de l'importance politique du king, en fait. Pour moi, les queens, les kings, c'était drôle, ça faisait partie de la culture lesbienne, c'était classe, enfin, c'était, tu vois, rien d'extraordinaire, c'était fun et point. J'ai eu la chance d'assister à ce qui est abordé dans le film par les kings du Berry, à une grosse programmation drag king qu'avait fait Cinéfable, le festival international du film féministe et lesbien de Paris. En 2007, ils avaient un très grand lieu, c'était le Trianon, qui est une grande salle de concert. Ouais. Et le festival, traditionnellement, s'est fait là pendant plusieurs années. Donc, il y avait un espace librairie, il y avait un grand théâtre qui fait 1000 places quand même, sur 3 étages, avec une belle scène équipée. Et donc, elles avaient fait une programmation où donc Paul Preciado faisait un atelier drag king à la librairie Violette & Co., puis il venait au Trianon pour faire un défilé de ses bébés kings.
Okay.
Puis il y avait un concert des kings du Berry. Puis il y avait un court-métrage Super 8 qui était une parodie du lauréat joué par des kings, dont Diane Thor. Donc tous les personnages sont joués par des femmes, en fait. Les D'accord. personnages féminins comme les personnages masculins.
Oh,
et voilà, moi j'étais... Je suis venue à Cinéfab que pour cette programmation ce jour-là et j'ai découvert et je me suis éclatée. Point.
Ouais, voilà, c'est ça.
Voilà, j'ai pas. Et tout ce qu'ils ont eu comme violence après le lendemain, tout ça, j'ai pas pu voir parce qu'en fait, moi, j'ai vu juste cette programmation. C'était génial, j'étais trop contente. J'ai retenu dans un petit coin de ma tête King du Berry, c'est pour ça aussi que je suis allée les rechercher.
C'est ça, parce qu'ils sont dans ton film. Hein.
Exactement, parce que c'est une bande qui était dissoute depuis des années.
Ok.
Et je les ai recontactés et je leur ai demandé si c'était OK de se revoir. Et il y en avait qui ne s'étaient pas vus depuis des années.
Ah ouais,
de se revoir pour l'interview. Ouais.
C'est intéressant.
Donc je suis allée à Bourges, à l'entrepôt que tient Eric Noulette, qu'on a en bas à droite. Et même tu disais qu'il y avait un trans, mais en fait il y en a plutôt même 4 dans mon film.
Oui, c'est vrai.
Il y en a deux dans les kings du Berry, même si quand ils ont commencé le king, ils s'identifiaient comme lesbiennes, et ils le disent bien dans le film. Et je pense que Victor s'identifie plutôt comme peut-être comme trans maintenant ou queer, puisque quand il en était dans le film, c'était de dire qu'il était post-queer, mais je suis pas sûre qu'il s'identifie encore comme lesbienne. Donc voilà, c'est des fluidités aussi comme ça dans des genres. Et ça, j'ai bien aimé cet aspect de Victor, parce qu'on peut se rendre compte que dans différents aspects de sa époque de sa vie, en fait, en fonction des rencontres qu'on fait, des discussions, on peut se construire et évoluer dans sa construction.
Tout à fait.
Il n'y a pas quelque chose dans le marbre de « on décide, ok,
non, c'est ça.
Comme ça, je suis comme ça, j'ai cette orientation, point ». Et en fait, on se découvre soi-même, et c'est ça aussi qu'il dit en conclusion. Il est vraiment ce qu'il devait être quand il avait 4 ans. Ça a juste été un chemin pour se retrouver, pour être vraiment en ligne avec soi-même et être vraiment faire fi des constructions, pressions sociales, familiales qui t'orientent vers une façon d'être et que dire « non, ça, c'est vraiment moi, c'est ma personnalité ».
C'est vraiment beau ce que tu dis là. Non, mais c'est vrai, ça montre que personne n'est défini dans le marbre. Puis c'est pas parce qu'à un moment donné, tu te définis ainsi que tu dois toujours te définir ainsi.
Ouais. plus jeune, j'avais vraiment du mal à l'entendre. Tu vois, j'ai travaillé des années avec des sociologues sur des sujets qui sont tout autres, même si c'est lié au LGBT. C'était le sport LGBT, mouvement okay. sportif LGBT, dans lequel j'ai été très, très investie pendant des années. Je travaillais avec des sociologues. Et justement, ils me disaient que que de leur expérience, des entretiens qu'ils avaient faits, l'orientation sexuelle était fluide dans la vie, tu vois. Tu pouvais okay.
déjà,
changer. Okay. Et ça, c'était il y a une quinzaine d'années. Et moi, ça coinçait un peu, tu vois. J'avais pas envie de l'entendre, en fait. Moi.
Ouais, mais...
voilà, moi, je suis lesbienne, point. Et quand on me dit que, bah, un jour, je pourrais être bi ou hétéro, bah non.
Non.
Je ne le souhaite pas.
Mais je pense aussi qu'il faut le replacer dans un contexte où... toi comme moi, genre quand on a compris qu'on aimait les femmes puis qu'on était lesbienne, je sais pas si t'es complètement lesbienne, mais je me permets de dire lesbienne, il y avait un combat, tu sais, il fallait qu'on se batte, c'était pas connu, il y avait pas de représentation comme aujourd'hui, fait que tu sais, c'était comme je suis ça parce que si je le suis pas, ben on n'y arrivera pas quoi. Si je commence à dire oh non, je suis pas trop, tu sais, tu t'affirmes pas, personne t'écoute puis personne te croit, genre.
Ouais, je te rejoins vraiment sur. Parce que c'est déjà un combat intérieur.
En plus, oui.
Et je suis contente que pas mal de personnes dans les jeunes générations passent un peu à côté de ce combat intérieur maintenant, parce qu'il y a plus d'ouverture. Au moins, ils peuvent en parler mm-hmm. avec leurs potes, ouais, même si c'est difficile avec les adultes. Mais bon, on a au moins les bases. Puis après, je sais que c'est difficile encore hein, pour plein de gens hein, partout dans le monde, donc c'est pas la question. Mais oui, il y avait ce combat et cette absence de représentativité. Hein. Moi, peut-être que mon âge ne s'entend pas à ma voix. Mais moi, quand j'étais ado, ma seule et unique absolue référence, c'était la biographie de Martina Navratilova.
Ah, c'est faux.
C'était la seule chose, et bon, pas juste sa biographie, elle, dans les médias, elle, comme elle était respectée en tant que championne, elle, comment sa compagne ou ses attitudes envers ses différentes compagnes étaient respectées dans ce que moi, je pouvais voir, c'est-à-dire les retransmissions sportives. Quant à Wimbledon, elle gagne et elle escalade la tribune royale et va embrasser à pleine bouche sa compagne. Bon, ça me fait encore des frissons et ça m'en ferait encore. Voilà, on parle des années 80, 90, il n'y a pas Internet, c'est pré-Internet. Et donc, c'est vraiment le seul livre que j'avais. Je l'ai relu plusieurs fois d'ailleurs. Et c'était un peu mon phare dans la tempête. Quoi. C'est OK, il y a quelqu'un, c'est possible. Et c'est une championne. Et je l'admirais aussi. Bon, il se trouve que j'étais très sportive, donc ça m'a aidée dans mon cheminement. Et voilà, et la presse mainstream peut la glorifier, l'encenser, et ça continue. Alors bien sûr, il y a tout un pan de critique, etc., que je n'ai pas vraiment vu ou que je n'ai pas voulu voir. Mais ce n'était pas forcément la presse sportive, hein, parce que je suis revenue sur des articles de l'époque, et je l'ai lu entre vraiment au mot près, il n'y avait vraiment pas de... si on prend l'équipe, comment il la traitait, en tout cas, dans ce que moi j'ai pu percevoir, le magazine L'Équipe, par exemple, j'ai pas vu d'homophobie, alors c'est...
Non, ouais.
C'était alors que bon, on en a eu dans plein d'autres situations au regard du sport masculin, par exemple, des commentateurs sportifs jusqu'à il y a un an ou deux. Donc
oh oui,
voilà, c'est... dans oh le milieu oui. du sport et des médias, c'était donc voilà, ma seule référence, c'était ça. Et oui, de me dire voilà, je suis lesbienne, c'est bon, je sais ce que je suis, et puis j'aime bien aussi. Souvent, les personnes mainstream, hein, je dirais, pensent que c'est des étiquettes qu'on se colle et qu'on se met dans des boîtes et qu'on s'isole, etc. Et moi, je sais que c'est juste, ça permet de rejoindre une famille et de dire, OK, je suis de la même maison, on y va ensemble. Et pareil, c'est très parisien, mais juste pour donner un aperçu, le Marais, c'est le quartier du milieu. Et le milieu, c'est les associations qui le composent. Et moi, j'ai toujours dit, pour un peu provoquer les gens, moi, je suis au milieu du milieu.
Au milieu du milieu, ouais.
Et le milieu, c'est pas... la communauté ou le milieu, c'est pas négatif. C'est non, des c'est super ça. Armes qu'on a. Et j'en ai pris conscience dès 94, quand je vais à la World Pride à New York, à la fin des Gay Games. Et que pour les 25 ans des émeutes de Stonewall, il y a 1 300 000 personnes qui défilent de l'ONU à Central Park. Voilà.
Okay.
Ça change ta vie. Et tu te dis, OK, voilà ma famille. Si elle on peut là. Dire quelque chose que les gens peuvent comprendre mieux que le terme communauté qui ramène à communautariste et qui veut dire où les gens voient isolement. Non, ma famille, elle est mondiale et partout, je peux voyager dans le monde et je peux trouver des gens comprendre ce que je vis, qui vont, avec qui je peux échanger spontanément tout de suite, parce qu'on a des choses en commun, quelles que soient nos origines, notre niveau social, notre culture, notre nationalité, notre langue.
Oui.
On a des codes communs.
C'est vrai.
Qui permettent de se rencontrer plus facilement, qui brisent la glace tout de suite, quoi. Si je sais que quelqu'un est lesbienne ou gay, bah, ou qu'il soit dans le monde, c'est 20 secondes pour faire connaissance, parce qu'on a déjà une urgence à se dire « ouais,
donc on est pas la tout même... » Ouais, c'est ça. T'es là aussi. Mais tu viens d'en parler un petit peu, puis tu le disais au panel du Festival Cinédance. Tu disais, malheureusement, aujourd'hui, aux mots communauté et étiquette, on attribue des termes négatifs. Puis c'est vrai. Puis c'est ce qui fait que souvent la communauté LGBT est mal vue. Alors que, comme tu viens de le décrire, en fait, non, c'est juste une famille. Puis c'est des points de rattachement, puis de sécurité, en fait, quand tu te reconnais à travers le monde.
Et c'est une force incroyable d'action. Tout ce réseau associatif, même le réseau commercial. On peut critiquer des gays, et pas des lesbiennes malheureusement, mais des gays qui font de l'argent avec des gays. Mais ça n'empêche que ces lieux-là, si tu les as pas, maintenant, bon, on a les applications, voilà, tu peux te rencontrer sur les applications. Mais des lieux où tu peux juste te détendre et boire un verre en n'ayant plus à contrôler quoi que ce soit de tes mouvements, de tes paroles, de ton regard, d'être juste toi. Moi, j'avais un pote gay, il avait l'habitude de dire « le marais, c'est une zone libre ».
C'est vrai.
Et c'est ça. Et pourquoi, comme moi qui venais de région, le sud de la France, Marseille, quand je monte à Paris, comme on fait pour les Français, j'imagine qu'au Québec, il y a un petit peu de similarité sur « je vais à Montréal ».
Oui, c'est un peu la même. Il y a un petit combat, les régions puis Montréal. Ouais.
Donc, je monte à Paris. Et pourquoi autant de LGBT ont, pendant des années, monté à Paris? C'est pour l'anonymat de la grande ville. Et personne ne me connaît, je peux faire ce que je veux et je peux être qui je veux. Et une possibilité dans la rue, bon, qui s'est un peu dégradée effectivement autour des années 2013-2014 avec les manifs qu'il y a eu en France contre l'ouverture au mariage pour tous, qui a amené des intégristes et des cathos à mobiliser des gens contre nos droits et qui a augmenté la violence. Donc les rues sont un petit peu moins safe, même à Paris, aujourd'hui. Mais voilà, la ville permet, et ces espaces-là, et ces cafés, permet à nos artistes de s'exprimer, permet de rencontrer des auteurs et des autrices, permet... Bah oui, c'est un outil, ce sont des outils fondamentaux d'empowerment, en français, je ne sais pas le mot, parce que j'aime bien ce mot empowerment, de se donner de la force entre nous, en fait, de se soutenir et de sauver la vie.
Ça sauve des vies
tous les jours. C'est peut-être difficile pour les gens en dehors de la communauté de comprendre ça, mais ouais, ça sauve des vies tous les jours. C'est fondamental pour moi.
C'est vrai. Merci pour ces beaux mots. On vient de parler de famille LGBT. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que tu parlais beaucoup au début de bébé king, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est les bébé king puis les familles de drag king?
Oui, alors je pense que c'est un petit peu en s'inspirant de ce que font les drag queens, où elles ont des houses, hein, comme un peu on peut voir dans le voguing, où on a une house.
Une maison,
oui. Voilà. Et on se met plusieurs queens et en général, on prend le même nom de famille. C'est le nom de de notre maison. Et y a des kings qui se sont fait adopter par des maisons de queens. Donc, ça a permis cette sororité de se développer, puisque là, on peut parler de sororité entre queens et kings. Et nous, bébé king, ouais, je ne sais pas si tout le monde l'utilise, mais c'est vrai que je le retrouve assez souvent dans nos conversations. Bah, c'est un king qui débute sur la scène, qui a quelques mois d'expérience et qui commence à faire ses premiers numéros. Et y a heureusement pas mal de scènes ouvertes. Ça, pour le coup, il n'y a pas d'argent, mais il y a quand même des possibilités d'essayer ces numéros. Donc oui, c'est une façon affectueuse de dire, c'est un petit peu aussi entre nous une façon d'adoucir le jugement, tu vois. Tu vas pas prendre une performance d'un bébé king comme un king qui a 5 ans ou 6 ans d'expérience.
Non, c'est ça.
Ou qui dans son métier est comédienne, tu vois. Ou qui dans son métier est danseuse. Ou c'est ça aussi, les origines des gens, tu vois. Si c'est déjà une artiste professionnelle qui fait du king à côté, bah évidemment, le numéro, ça va pas être le même que quelqu'un qui n'a jamais fait de scène de sa vie et qui vient par cette force que le king amène et d'envie de s'exprimer et de prendre la place sur scène et de s'autoriser à monter sur scène dans un espace safe. Et puis bah, après, petit à petit, effectivement, prendre l'assurance et monter sur des scènes très différentes. Hein. Nous, on avait fait un cabaret king dans le cadre du festival Les Femmes S'en Mêlent,
okay.
qui est un festival qui soutient les artistes, les femmes artistes dans la musique, plus particulièrement avec des concerts, des séries de concerts, etc. Et ils nous avaient réservé le cabaret de Madame Arthur pour qu'on fasse un cabaret king. Donc voilà, c'était un cas de mainstream. Bon, en général, que ce soit pour Parole de King, je l'ai constaté, que ce soit pour Cabaret King, le cabaret qu'on a créé pour, à la suite du film, quand on est dans un cadre mainstream, c'est fabuleux parce qu'on va attirer le public du lieu ou de l'événement, plus notre communauté.
C'est ça.
Donc c'est blindé.
Ouais, c'est ça.
C'est totalement blindé. Et ça fait des ambiances de folie parce qu'il y en a qui découvrent totalement et puis d'autres qui viennent se faire plaisir à revoir les potes ou à revoir les numéros. Ou d'autres, justement, LGBT qui s'autorisent à sortir dans un lieu parce qu'il n'est pas marqué. C'est un festival mainstream.
Mm-hmm.
Ah, je peux aller voir du King. C'est ça. Donc, je peux sortir sans que ce soit marquant si je n'ose pas passer les barres. Parce qu'on c'est en est là aussi.
Connoté,
quand, voilà, on disait que ça soutient, mais il y a des gens qui n'osent même pas passer le pas de la porte de cet établissement ou de ces spectacles. Donc, ça permet à des gens qui ne sortent pas dans le milieu de pouvoir voir du King.
Ah, c'est très cool. Et écoute, ça fait déjà 50 minutes qu'on discute. Est-ce que tu veux faire ta petite pub de film puis nous dire où est-ce qu'on peut les retrouver si on veut les visionner ?
Donc, pour ce qui est de Parole de King, comme je vous l'ai dit, c'est en autoproduction. Et en fait, je paye encore certaines factures de ces années-là. Donc, si vous voulez soutenir le film, la meilleure façon, c'est d'acheter le DVD sur le site de la distributrice. Donc, vous avez, si vous cherchez Parole de King VOD, vous allez tomber sur la plateforme qui s'appelle Capucine, je crois. Mais vous la trouvez vraiment facilement. Qui s'appelait avant Documentaire, Film Documentaire. Bon, elle a changé de nom. Donc, vous cherchez Parole de King VOD, vous allez trouver sur ce site. Soit vous l'achetez en VOD, c'est genre 3€ quelque chose.
Okay.
Voilà. Soit vous achetez le DVD. Et là, vous soutenez vraiment parce que l'argent va à la distributrice qui a investi pour sortir ce DVD.
D'accord.
Et à moi aussi. Alors que si vous le prenez sur Amazon, par exemple, on va recevoir 50 centimes chacune.
Ouais,
parce qu'Amazon va vendre moins cher, certes, le DVD, vous le payez moins cher, mais 90% de l'argent reste dans les poches d'Amazon.
C'est ça, ça ne revient pas aux artistes.
Exactement. Amazon fait ce qu'il veut. Et puis, bah, il vaut mieux quand même être sur Amazon que de ne pas être du tout. Donc, la distributrice fait toujours le choix de mettre les films. Et si vous prenez le DVD, donc vous soutenez vraiment le film et vous avez en bonus les 48 minutes de Louise Deville, Portrait d'une Bad Girl.
Oh ben là, deux films pour le prix d'un.
Exactement, okay. On y est allé fort sur les bonus, on a rajouté une petite scène coupée et quelques chutiers, donc il y a un tout petit bonus d'une dizaine de minutes en plus. Donc depuis, j'ai travaillé sur le voguing, plus précisément sur la scène ballroom parisienne. Et en libre accès sur YouTube, vous pouvez trouver Vogueur of Paris, qui est une petite série en 3 ou 4 épisodes, qui vous présente la ballroom. Et vous pourrez retrouver en festival de temps en temps All That Pose For Me,
okay.
qui est un court-métrage de 22 minutes que j'ai co-réalisé avec Xavier Héroux et qui a pour objet cette fois-ci de creuser un petit peu plus, de rencontrer d'autres personnages que ce que vous voyez dans Vogueur of Paris en libre accès. Et qu'est-ce que j'ai ? Bah, je crois que ce qui est accessible actuellement, j'ai une chaîne YouTube qui est un petit peu dormante, mais j'espère que 2022
va la faire renaître.
Oui, exactement. Ouais, j'ai les sujets, j'ai les idées, j'ai le matériel, les compétences. C'est une question de temps.
Mais c'est beaucoup de travail.
Oui, et de priorisation. Mais bon, c'est vrai qu'au sortir de la pandémie, j'ai qu'une envie, c'est de me jeter dans n'importe quel événement LGBT qui vient et d'aller faire des images. Et puis, le temps passant, je m'aperçois que des choses qui sont très quotidiennes pour nous et qui disparaissent et qui finalement, on n'a pas gardé de traces, Bah, c'est dommage. Donc, des lieux qui ferment, okay. Comme j'ai cité la librairie Violette & Co, bah, elle vient de fermer. Bah, heureusement, j'ai fait des images au gré des années, pas spécialement pour documenter, mais en tout cas, j'ai des images de cette librairie, mais pas forcément d'interviews de ces créatrices qui, normalement, vont transmettre le fond et le nom. Donc, ça va se déplacer, mais elle devrait probablement renaître. En France, on a aussi à Paris Les Mots à la Bouche, par exemple, qui est une autre librairie et qui s'est transformée en coopérative.
Okay. Parce
qu'ils ont été virés du Marais et le propriétaire a décidé de donner les parts de la coopérative à ses salariés. Donc c'est une très belle histoire qui continue de se développer.
D'accord.
Mais voilà, c'est pour dire que notre milieu, il évolue en termes de l'espace sur là où je vis, moi, pour Paris. Mais voilà, les choses sont éphémères et peuvent disparaître. Il y a des soirées qui disparaissent, qui sont pourtant des institutions. Mmh. Il y a des choses. Donc, c'est aussi mon envie sur YouTube de...
Ramener tout ça un
ouais,
petit peu.
De garder des traces, d'avoir des images. Comme je dis, des choses qui nous paraissent très quotidiennes, mais dans 20 ans ou 30 ans,
ça
sera plus là. Donc, et les jeunes qui arrivent penseront qu'il n'y avait rien avant ou seraient contents de voir des images de l'époque où nous, on aimerait se revoir quand on était. Voilà, donc YouTube, c'est Chris Lag Film, je crois. J'avais mal choisi mon nom, mais si vous tapez C-H-R-I-2-S-L-A-G, que ce soit n'importe où, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, vous allez me trouver.
Parfait. Ben, je te remercie beaucoup. Y a une autre tradition dans ce podcast, c'est que je laisse tout le temps un mot de la fin.
Bon, moi, j'ai envie de célébrer le fait d'être ici, à Rouen, Noranda, au Québec, au Canada, de l'autre côté de l'Atlantique, vraiment très loin de chez moi, juste après la pandémie. Et mon premier festival, c'est ici. Alors, c'est vraiment dingue. C'est en plein hiver. Il y a des mètres de neige dans la rue. C'est totalement hors de mes repères à moi. Donc, je peux vous dire que c'est très très exotique comme voyage et très dépaysant. Et voilà, c'est dingue que c'est un festival sur la danse, hein, qui n'a pas de lien direct avec les LGBT. Donc je suis ravie que la coalition LGBT de Rouyn-Noranda ait été partenaire de l'événement et que mon film Parole de King puisse être programmé comme ça dans une chose très mainstream, dans un festival très mainstream. Et c'est dingue, voilà, je suis très très contente d'être là, ce sera ça mon mot de la fin.
C'est parfait, c'est super. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de venir parler dans ce micro, puis de t'être confiée.
Bah, c'était un grand plaisir, à très vite.
À très vite, bye bye.
Bye.
C'est déjà fini, mais pas de panique, si tu veux tu peux écouter ou réécouter les épisodes de la saison 1 sur Spotify et Apple Podcasts. Et si le cœur t'en dit, eh bien tu peux laisser un commentaire dans ton application de podcast préférée. Et si Poupoule et moi te manquons trop, eh bien je t'invite à nous retrouver sur notre page Facebook et notre page Instagram. Je te remercie beaucoup pour ton écoute et j'en profite également pour remercier la coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue qui a financé le matériel pour ce podcast. Et si tu es curieux ou curieuse ou que tu as besoin d'aide, eh bien je t'invite à les contacter. À bientôt !